Si comme la plupart d'entre nous, vous n'y comprenez pas grand-chose au tri des déchets, si la vue d'une poubelle de couleur vous donne de l'urticaire et si vous avez frôlé la rupture avec votre moitié parce que vous n'étiez pas d'accord sur le bac dans lequel mettre votre pot de yaourt en verre, eh bien cette terre au carré pourrait bien changer votre vie. Jean Ornain, le directeur général de Citeo, une entreprise qui finance la collecte, le tri, le recyclage dans notre pays. Il est donc mon invité dans un instant pour vous répondre en direct au 01 45 24 7000, également sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Comme tous les jours, Camille passe au vert. Mais sur quel sujet, Camille, aujourd'hui?
Les toilettes sèches.
Ah et là oui. Là.
Bon appétit.
Vous avez découvert ça cet été.
Voilà.
Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec Primel, une auditrice de Marseille qui s'est engagée dans la protection des abeilles dans les quartiers nord. Antoine Lee nous proposera le dernier portrait de la semaine avec Martin, un jeune activiste qui allait manifester à l'Élysée. Et puis notre invitée découverte est une scientifique spécialiste des sols. Elle nous parlera du lien entre le climat et les terres émergées de notre planète. Bienvenue dans la Terre au Carré, Valérie Ayestaraï réalise l'émission.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré, sur France Inter.
Ce papier recyclé, là, ça coule, j'en ai plein les mains, c'est dégueulasse.
Mais depuis que Nicolas Hulot est président, c'est l'enfer, l'enfer, les poubelles.
Tu te souviens quand on mettait tout en vrac dans une seule grosse poubelle?
Nostalgie.
Ouais. Alors, bio-organique.
Jaune.
Ouais, jaune. Tube de maillot, ça c'est dans déchets pétrolifères.
Vieux rose, rose bonbon. Mais l'eau, tu veux, de toute façon, on n'a pas voté Hulot.
Oh, t'as raison.
Voilà, c'était le bon temps, la poubelle unique, Jean Ornain. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Citeo, donc cette entreprise spécialisée dans le recyclage des emballages ménagers et des papiers graphiques. Et vous publiez avec les éditions du Cavalier Bleu cet ouvrage « Faites le tri » dans la collection Idées reçues. Et justement, bah, l'idée, c'est d'abord de faire le tri dans les idées reçues pour parler de ce sujet et surtout des bonnes règles à respecter. Il y a plein de choses à ingurgiter finalement autour du tri. Hein. C'est compliqué.
Il y a des règles à bien connaître. Effectivement, Citeo est l'entreprise qui a été créée, d'ailleurs par les entreprises qui financent, si vous avez chez vous un bac de tri, ce sont les entreprises qui le financent. Et il y a quelques règles à respecter qui sont parfois très simples, parfois effectivement un petit peu compliquées en France, mais en toute hypothèse, mieux que ce qu'on a entendu. Il y a 30 ans, on avait nos bonnes décharges à ciel ouvert dans lesquelles on mettait tout, nos trous communaux. Et voilà, depuis, on a quand même créé une industrie du recyclage. On recycle 70% des emballages ménagers en France. On recycle presque 60% du papier.
Mais c'est très récent, finalement, dans notre histoire commune à tous.
C'est vrai. Ça date du début des années 90, dans le domaine des emballages, où on a inventé quelque chose qui s'appelle la responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire ça a donné la responsabilité à celui qui vous vend un produit qui a un emballage. On lui a dit, vous avez la responsabilité de la fin de vie de l'emballage. Donc c'était très innovant. Et pour ça, en fait, à chaque fois qu'il vous vend un produit, une bouteille, un paquet, il va payer en fonction de la nature de l'emballage et de sa recyclabilité pour financer la collecte, le tri et le recyclage.
Alors concrètement, quand je jette mes déchets, vous vous trouvez où, vous citez où dans le circuit du tri?
Alors nous, en fait, nous sommes celui qui collectons auprès de l'ensemble des entreprises qui vendent des produits tout l'argent qui permet de financer la collecte et le tri. Donc à chaque fois qu'un produit est vendu, on perçoit, donc sur une bouteille, ça va peut-être être un centime d'euro. Tous ces centimes d'euros, ça fait entre 700 et 800 millions d'euros chaque année, 10 milliards sur les 25 dernières années. Et ça, après, on finance les collectivités locales. Donc dans votre collectivité locale, c'est elle qui va mettre la poubelle, donc une poubelle souvent qui est jaune, dans laquelle vous allez mettre vos emballages et vos papiers. Et donc on verse l'argent à la collectivité pour qu'elle fasse ce travail-là. Et après, on a d'autres travaux qui s'appellent de l'éco-conception, mieux concevoir les emballages et créer ce qu'on appelle les filières de recyclage, c'est-à-dire que votre bouteille redevienne une bouteille.
Alors finalement, les entreprises qui vous financent, puisque c'est ça dont il s'agit, c'est par exemple Evian, Danone ou McDonald's, qui sont quand même parmi les plus gros producteurs de déchets plastiques dans le monde. Donc finalement, c'est grâce à leurs déchets que votre entreprise peut exister. Donc vous n'avez pas franchement intérêt à ce qu'ils arrêtent de produire des emballages, non?
En fait, ils ont une responsabilité. Et ça, c'est très moderne. Le fait de dire à quelqu'un, quand vous mettez un emballage sur le marché, vous avez la responsabilité de la fin de vie, je pense que c'est quelque chose qui va être généralisé à d'autres secteurs, parce que ça responsabilise celui qui met son emballage sur le marché, et c'est lui qui paye. Et donc, il a un intérêt objectif à la recyclabilité. En plus, nous, on a...
Mais est-ce que ça change vraiment leur pratique? Par exemple, sur un producteur de hamburgers qui en produit des milliards chaque année, est-ce que franchement, il a besoin de ces emballages?
Ah, il en a besoin. Il a besoin de l'emballage pour protéger son produit, pour l'amener à son consommateur, pour mieux le conserver.
Donc, quelles sont où les bonnes pratiques pour lui?
Après, sa bonne pratique, ce sera de le réduire. Par exemple, donc si je reprends une bouteille, par exemple, elle a perdu 40% de son poids dans l'espace de 15 ans. Donc c'est moins de matière et ça lui coûte moins cher. Hein. Donc en fait, moins d'emballage lui coûte moins cher. Et en plus, il paiera moins cher sa contribution à Citeo. Et si en plus son emballage est recyclable, il paiera encore moins cher. Par exemple, si vous faites du verre, vous allez payer moins cher que si vous faites du plastique. Parce que le plastique est plus difficilement recyclable que le verre.
Donc la poubelle qui se trouve dans mon immeuble, je la dois à McDonald's, par exemple?
Vous la devez pas, on peut pas dire ça. Vous la devez pas à McDonald's, mais en fait, c'est un système, au lieu de taxer les contribuables, ce système a été inventé pour responsabiliser les producteurs. Donc quand vous produisez, vous devez prendre en considération l'impact environnemental de ce que vous produisez. Et donc vous devez payer. Et votre facture, elle augmente en fonction de votre type d'emballage, de sa recyclabilité, de sa difficulté.
Vous, votre intérêt, c'est qu'ils continuent à produire quand même, puisque vous avez cet argent qui arrive de ces entreprises.
Oui, en fait, nous, on est une entreprise à but non lucratif. Donc, on n'a pas d'objectif, ni de chiffre d'affaires, ni de rentabilité. Notre objectif, c'est la performance de la France. J'ai dit tout à l'heure, on est à 70% de taux de recyclage des emballages ménagers, 59% des papiers. Ben, notre objectif, c'est que tout devienne recyclable et qu'on soit dans une économie circulaire. C'est-à-dire que finalement, on sorte de ce circuit, c'est j'achète, je jette, et que finalement toute la matière devienne matière. Donc on n'est plus de déchets, qu'on n'est que des ressources. C'est valable d'ailleurs sur le biodéchet, c'est valable dans le bâtiment, c'est valable dans d'autres secteurs. Mais l'emballage a créé ça, et c'est vrai qu'il est très visible.
Jean Ornain, j'ai découvert en lisant ce livre qu'il existe un observatoire du geste de tri pour scruter nos moindres faits et gestes. Et puis, tant qu'à faire, essayer d'améliorer la situation en simplifiant au maximum tant que c'est possible. Hein. On verra avec vous qu'avec le plastique, c'est très compliqué de le faire.
Oui, c'est exact. On observe les citoyens dans leurs gestes. On essaye de voir qu'est-ce qui peut les inciter à plus trier. Parce que finalement, c'est un tout petit geste au quotidien, mettre une bouteille ou un paquet dans une poubelle de tri. Mais ça a un impact environnemental, dès lors qu'on parle des 67 millions de Français, qui est colossal. Ouais. Et donc, on regarde et vous triez moins dans votre cuisine, dans votre salle de bain, par exemple, que dans votre cuisine. Donc, comment est-ce qu'on peut vous aider à avoir la conscience que dans la salle de bain aussi, le paquet pour le tube de dentifrice ou le flacon de shampoing, et c'est aussi un emballage qui est recyclable.
C'est-à-dire qu'il y a des psychologues qui étudient nos micro-stress, celui du trieur face à sa solitude devant la poubelle.
Oui, et puis on a un enjeu, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un enjeu de simplification. C'est-à-dire que partout où qu'on soit en France, on reproduise à peu près le même geste de tri, de façon à ce que quand vous partez en vacances, vous ayez la même chose que quand vous rentrez à Paris.
Dans un instant, elles sont déjà très nombreuses, les questions des auditeurs au standard de France Inter, et puis également sur les réseaux sociaux. Un mot quand même sur la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, qui a présenté cet été en Conseil des ministres ce projet de loi sur le recyclage et l'anti-gaspillage. Qu'est-ce qu'on peut attendre vraiment de ce texte pour améliorer les pratiques?
La première chose, c'est que justement, cette notion de responsabilité des producteurs, elle est en train de l'étendre à d'autres secteurs. Donc le secteur du bâtiment, le secteur des cigarettes, pour que chacun intègre la responsabilité et finance la collecte, le tri et le recyclage de ces produits qui a été effectivement créé par l'emballage. Après, elle consacre aussi un autre sujet, ça s'appelle l'écomodulation. Alors c'est un peu technique, mais en fait ça veut dire qu'un producteur, moins c'est recyclable, plus il paye, et plus c'est recyclable, moins il paye. Qui est plutôt un bon principe que nous on a mis en place il y a quelques années et qui est efficace.
Allez, les auditeurs, pour vous en direct au standard et puis également sur le mot-clé, la taxe sur les réseaux sociaux.
France Inter. La Terre au carré.
Camille passe au vert. Et alors là, c'est radical, puisque vous nous parlez, Camille, aujourd'hui, d'une de vos rencontres marquantes de l'été, ce sont les toilettes sèches.
Oui, alors j'entends d'ici les gens dire « Ah bah voilà, super, même pas une semaine qu'elle est là, et elle nous sort la carte pipi-caca, bravo, c'est du haut niveau ».
Clap, clap, ouais.
Mais le sujet des toilettes est en fait tellement universel et concernant, vous avez beau critiquer, je suis sûre que vous tendez toujours l'oreille, qu'il fallait le faire, d'autant qu'il est en plein dans le thème, puisque les toilettes gaspillent un maximum d'eau et ne font donc pas du bien à la planète. Hein. Rien que le temps de cette chronique, toutes les chasses d'eau tirées en France auront rempli presque 2 piscines olympiques et on parle d'eau potable. Les toilettes sèches, donc, croisées dans la jolie Drôme provençale avec les cigales, déjà expérimentées très brièvement dans quelques festivals, mais jamais plusieurs jours de suite au camping. Et j'avoue, je ne suis pas fan et je n'étais pas totalement seule.
C'est un peu dégueulasse. Au réveil, c'est un peu dur.
Alors de quoi parle-t-on pour ceux qui ne connaissent pas les toilettes sèches? Vous entrez dans une cabane, en face de vous, une grande chaise en bois, vous soulevez le battant, il y a un trou dans le siège, comme la fameuse chaise percée dans le temps, et juste en dessous, un tas recouvert de sciure, des copeaux de bois avec du PQ qui dépasse par-ci par-là. Est-ce qu'il y a sous la sciure ? Je ne vous fais pas un dessin.
Non, merci, ça suffit.
Mais il y en a que ça ne bloque pas du tout.
C'est plutôt rigolo. Hein. Déjà, plutôt que d'avoir une cuvette toute blanche, t'as un espèce de fauteuil de ministre.
C'est un trône.
Mais ça t'a jamais bloqué ?
Non. Quand on a envie, on a envie. Hein. Je suis désolée, mais ah, moi j'ai envie de faire caca, je vais faire caca. Hein.
Et c'est quoi les autres avantages des toilettes sèches ?
Bah, ça pue pas.
Eh oui, je suis sûre que vous vous posiez aussi la question, Mathieu. Oui,
en
tout cas là-bas, en l'occurrence. Alors, les toilettes sèches sont également synonymes de nostalgie, parfois.
Mes grands-parents, en fait, ils avaient les toilettes sèches. Et en fait, du coup, au début, ça m'a surprise quand je suis arrivée ici. Mais en même temps, ça m'a rappelé tous ces bons souvenirs d'enfance.
Ah, les bons souvenirs d'enfance du trou au fond du jardin. Alors, on dit toilettes sèches, mais ça se rapproche de ce qu'on appelait les latrines en France, mm-hmm. Jusqu'à la généralisation de la chasse d'eau et des équipements en porcelaine dans le courant du XXe siècle. Là, dans la Drôme, ça ne part donc pas dans les égouts, mais s'accumule dans un bac juste en dessous du siège.
Quand on lève le couvercle, on voit ce qui se passe, quoi. Et ça peut... Ça peut rebuter, oui, un peu. Ouais.
T'imagines que tu fais tes besoins en dessous de tous les besoins de tous les gens qui sont passés ici, aujourd'hui, hier.
Cacher ces excréments que je ne saurais voir et que la chasse d'eau nous permet en fait d'évacuer aussi bien des toilettes que de notre vue et donc de notre esprit.
On tire la chasse, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, mais finalement, le tas, il y est quand même. Donc, on ne peut pas savoir qu'il est là, mais il est là quand même.
Après, je ne connais pas toute la logistique, comment on évacue tous ces déchets. C'est pas si simple, à mon avis.
Et effectivement, oui, il y a un peu de technique. Alors là, je suis allée voir le propriétaire des lieux.
Vous voulez que je vous emmène demain ? On va changer les trucs.
Non, c'est dommage. Je partais le lendemain.
Ah, c'est bête, ouais.
Du coup, il m'a expliqué.
Il faut changer régulièrement, deux fois par jour minimum. On va utiliser tous les déchets que l'on va laisser sécher et que l'on va traiter et que l'on remet comme engrais.
Mais alors attention, l'engrais pas directement sur un potager par exemple, parce que même après évaporation, il peut rester des traces de médicaments ou autres substances. En fait, les toilettes sèches ont surtout l'avantage d'économiser l'eau. Je vous donne un autre chiffre. Au total, chaque jour cette fois, rien qu'en France encore, ce sont plus de 2 milliards de litres qu'on utilise. Alors vous allez me dire, oui mais t'es gentil, les toilettes sèches en ville, dans mon immeuble, c'est plus possible. Et vous aurez raison, pour d'évidentes raisons sanitaires. Alors comment on fait ? Eh bien, mon petit voisin de tente a une suggestion.
On pourrait utiliser de la vieille eau complètement usée pour serrer la chasse. Ça aurait déjà été mieux.
Si les services d'assainissement nous entendent, n'oubliez pas non plus la technique de la brique dans le réservoir ou de faire carrément pipi sous la douche. Et pour revenir aux toilettes sèches, sachez que ce sont les Scandinaves les plus adeptes,
ah
les
ouais.
Suédois en particulier, encore eux décidément.
Mmh.
Mais rassurez-vous, si vous n'êtes pas prêt à passer cette étape, on ne vous en voudra pas.
Je vais pas aller courir après quelqu'un qui utilise des toilettes normales pour lui dire « Arrête, tu détruis la planète ».
En tout cas, c'est un luxe. Je rappelle que 4 milliards et demi de personnes, presque 2 terriens sur 3, n'ont pas accès à des toilettes dignes de ce nom, d'après l'OMS, dont presque 1 milliard défèquent en plein air, dit-elle. Et là, il ne s'agit pas d'un acte écologique, mais bien de la pauvreté, des inégalités, avec des conséquences majeures pour la santé publique.
Voilà, enquête de terrain, Camille passe au vert et souvenir de ses vacances dans la Drôme.
Vous avez déjà testé les toilettes sèches, Jean-Ordin ?
Alors, oui.
Mais
effectivement, de façon plus, on va dire, naturelle, pas de façon organisée.
D'accord.
Ça m'est effectivement arrivé. Mais bon, c'est de l'économie circulaire, hein, ça,
ouais.
Finalement, c'est le traitement de nos biodéchets.
Tri et recyclage au menu de nos discussions avec vous dans un instant. 01 45 24 7000, les auditeurs ont beaucoup de questions à vous poser.
Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ennui. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. Je fous rien toute la journée. Je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi. Je fais n'importe quoi. Faudrait voir un psy. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'alcool. Ça commence par un verre. Et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est les autres. Quand j'essaie de rentrer, il me pousse à la faute. Pour de vrai, pour de vrai. 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 S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Dis-moi. problème c'est le stress. Quand les problèmes arrivent, je bloque et je te laisse le reste. J'arrive plus à penser, donc il faut que je décompresse. Mais je vais beaucoup trop loin, je contrôle plus rien, y a plus de gentillesse. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est la peur. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ego. Il me pousse à séduire, à posséder les choses. Pour de vrai, pour de vrai. 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 S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. 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 Dis-moi, dis-moi, dis-moi.
Dis-moi, c'était Aurel San.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, faites le tri, les idées reçues sur le tri, le recyclage et surtout vos questions à notre invité Jean Ornain, qui est directeur de Citeo, donc qui finance la collecte, le tri, le recyclage, 01 45 24 7000 et les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de questions, Camille, hein, qui arrivent au standard de France Inter. On va donc tout de suite aller voir Dominique qui est avec nous en ligne. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où?
Du Vaucluse, de la région PACA, en bout de peloton des régions pour le tri sélectif.
Très bien. Bienvenue dans la Terre au carré et on écoute votre merci. Question.
Merci de prendre ma question. Comment convaincre nos voisins qui ont, surtout les familles jeunes récemment installées, donc au courant des problèmes environnementaux, de l'importance de faire leur tri quand, et quand ils ont deux arguments à chaque fois qu'on leur parle, c'est aux industries de commencer, et deux, à Marseille, ils mélangent tout. La région PACA, pourtant, bon, est en bout de course. Notre intercommunalité, la côté Lube, informe du mieux qu'elle peut, elle donne les prix, etc., de ce que coûte le tri. Qu'est-ce qu'il faut faire? Punir, installer des caméras, peser les déchets individuels? Et à mon avis, les conteneurs souterrains qu'on nous a installés depuis quelques années pour les déchets ménagers sont une véritable hérésie puisqu'ils ne permettent même plus de voir ce qui est jeté. Donc on voit les gens jeter même les bouteilles alors que tout est à 30 mètres de la poubelle pour les déchets ménagers.
Alors, votre réponse, Jean, et ça concerne pas que les jeunes d'ailleurs, hein, parce que l'éducation c'est pour tout le monde, j'ai l'impression aujourd'hui. Hein.
Non, ça concerne particulièrement les jeunes qui sont et les jeunes urbains en particulier qui sont les moins enclins à trier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les convaincre? Alors, nous, on fait de la communication. On a lancé tout un mouvement en disant trier ces données. Donc, c'est donner un nouveau souffle à la planète, un avenir à nos enfants. Donc, ça, c'est une partie de la réponse. Quand ils disent que c'est aux industriels de faire le premier pas, c'est vrai, c'est exact. Et d'ailleurs, la responsabilité du producteur qui finance la poubelle qui est mise chez eux, en fait, c'est ce geste-là qui est fait. Et le fait que pour les industriels, il faut que 100% des emballages soient recyclés ou recyclables. Donc ça, c'est vraiment ce que la responsabilité des industriels. Après, il y a une légende urbaine, effectivement, qui traîne. Et notamment à Marseille, c'est dire, de toute façon, tout ça, ça se retrouve n'importe où. Bon, alors, à part emmener tous les gens dans un centre de tri en France, c'est quand même globalement bien organisé.
Ah, mais ça peut être sympa, faire une petite visite.
Mais c'est une très...
Pourquoi et vous maintenant, on fait pas des parce parcours que les gens pédagogiques. Pas. Donc, les gens, en fait, savent pas comment ça se passe.
Alors, on fait, nous, dans les centres de tri, il y a des parcours pédagogiques maintenant dans lesquels on emmène les enfants pour leur montrer ce que deviennent ces choses-là. Parce qu'en fait, sinon, on se dit, bah, finalement, on sait pas ce que ça devient. Mmh. Et puis, on a des programmes dans les écoles. Donc en fait, on va dans les maternelles, dans les primaires, avec des associations pour faire l'éducation au tri et au recyclage. Après, il y a les collectivités locales, la dame l'a dit, en fait, qui sont au contact et qui, elles, sont chargées directement avec les citoyens de promouvoir le tri et le recyclage.
André, vous êtes en ligne. Merci à Dominique pour son
Merci.
Appel. Bonjour André.
Bonjour, comment allez-vous?
Ben, ça va bien et vous?
Très mal.
Ah bon? Qu'est-ce qui vous arrive?
Bah, je vais très mal parce que je vous écoute et j'ai écouté une foultitude d'émissions sur ce thème.
Oui.
Et de toute façon, ça ne sert strictement à rien.
Allons bon.
Les gens sont des imbéciles.
Ah, carrément.
Ah ben carrément. Moi, écoutez, je vais vous donner deux exemples. J'habite dans une résidence.
Alors rapidement. Hein.
Et oui, tout à fait. Dans cette résidence, ce sont des gens aisés, des gens intelligents, etc. Quand vous voyez dans le local à poubelle comment sont triés les déchets, et d'un autre côté, je vois souvent une résidence qui est juste à côté de chez moi où des gens de conditions modestes. Et là, c'est même encore pire. On sort des poubelles qui sont absolument complètement c'est délirant. Alors moi, je vais vous dire, il n'y a qu'une seule solution. Il n'y en a pas 30 000, c'est la répression. On ne ramasse pas les poubelles qui ne sont pas triées.
Donc c'est la brigade du tri chez vous, André.
Tout à fait. Non, mais pas la brigade du tri qui fait du bisounours, parce que c'est brigade du tri qui font du bisounours, c'est pipeau. C'est la brigade du tri qui colle des amendes et des amendes conséquentes. Il faut pas, faut arrêter les petites amendes, etc. ou les concertations. Ça ne sert strictement rien. Les gens sont bêtes. Partez de ce principe. Les gens sont bêtes et inéducables.
Bon, alors André, on a bien compris. Alors tout le monde se fera une opinion sur vos analyses. Les gens riches trient mieux, les gens pauvres trient moins bien. Ça, bon, je suis pas sûr qu'on soit tous d'accord. Jean Ornain, une réponse rapidement parce que ça rejoint un petit peu la première question qu'on avait tout à l'heure.
Ça existe, on va dire la police du tri. Alors ça existe dans en Belgique, en Suisse. Donc effectivement, il y a des gens ils vont regarder à l'intérieur des poubelles. Ils vont trouver un morceau de facture et donc ils vont adresser une facture et une amende aux citoyens. Donc ça existe. Alors en France, on est un petit peu moins enclin à ces choses-là, mais ça existe comme solution.
Sur les réseaux sociaux, sur Twitter, on a reçu ce message de Berthe: trier mes déchets, oui, mais pour les retrouver en Asie du Sud-Est, non merci. Qu'en est-il réellement ?
Tout à fait d'accord.
C'est vrai que l'Europe envoie ses déchets en Asie. Hein.
Alors, l'emballage ménager, très peu, parce qu'en fait, c'est vrai que ça existe, c'est 1% sur l'emballage ménager, il y a 1% ce qu'on appelle du grand export. Oui. Mais même si c'est du grand export, ça doit être recyclé dans les mêmes conditions, et il y a des lois et des règles pour ça, que si on le faisait en Europe. Et donc, c'est pas acceptable de retrouver une bouteille ou quoi que ce soit dans une décharge en Malaisie. Donc,
vous savez, vous, qui a envoyé les déchets dont on a parlé là récemment dans l'actualité, qu'on a retrouvé en Asie du Sud-Est, vous avez la liste, vous?
Je n'ai pas l'opérateur ou celui qui a envoyé une bouteille dans une décharge en Malaisie. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'en fait, c'est totalement inacceptable. Alors, ok, aujourd'hui, si vous mettez un emballage dans votre poubelle de tri, 85% va être recyclé en France, 14% en Europe et 1% ailleurs. Mais même si c'est ailleurs, ça doit être dans les mêmes conditions. Désolé.
Bernard, avec nous, 01 45 24 7000. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Voilà, moi j'appelais parce que je m'étonnais que les consignes de tri ne soient pas nationales. C'est-à-dire que il suffit qu'on fasse 10 km, et notamment ici dans la métropole de Lille, pour que les consignes de tri ne soient plus les mêmes. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que votre invité nous disait que les industriels qui étaient les producteurs de ces suremballages étaient sanctionnés par une taxe. Or, on sait très bien que cette taxe payée par les industriels est répercutée très largement sur le prix d'achat des consommateurs. Et quant au recyclage et au verre, je pense pas que le verre soit une si bonne solution que ça, parce que vu le poids, le nettoyage et la production et l'énergie que demande la production du verre, à mon avis, c'est pas la panacée non plus.
Alors, beaucoup de questions dans votre intervention, Bernard. Jean Ornain, vous y répondez. D'abord, ça rejoint beaucoup aussi les messages des auditeurs sur le fait qu'on trouve jamais les mêmes poubelles de la même couleur d'une ville à l'autre.
Oui, la consigne de tri en France, il y a deux sujets. Le premier, c'est que on met pas encore dans toute la France tous les emballages plastiques dans la poubelle de tri. Donc ça arrivera d'ici 2022-2023, on pourra mettre tous les emballages dans la poubelle de tri. Et après, il nous reste un sujet à régler en France, c'est cette harmonisation nationale. C'est-à-dire que où que vous soyez, vous allez trouver des poubelles de même couleur. Voilà. Et ça, c'est un enjeu de loi et du projet de loi, de façon à ce que ce soit plus simple. Le deuxième sujet sur est-ce que la contribution payée par les industriels se retrouve dans le prix de vente? Oui, forcément, elle est bien évidemment payée, in fine payée par le consommateur. Néanmoins, je veux dire, c'est une forte incitation pour celui qui met sur le marché au recyclage, à la recyclabilité, et voilà, parce qu'en fait, c'est pour lui une charge financière.
Et la question du verre.
Et la question du verre, est-ce que c'est une bonne solution? Je veux dire, ça dépend. Le verre, en matière de recyclage, c'est un très bon matériau à recycler. Après, à transporter sur des très longues distances, non, c'est un impact environnemental qui est néfaste. Donc ça peut être une très bonne solution, mais si vous envoyez des produits très loin, c'en est pas une.
Madeleine est en ligne, et puis après on prend une question sur la page Facebook de l'émission. Bonjour Madeleine.
Bonjour.
Bienvenue dans la Terre au carré.
Mon intervention n'est pas vraiment une question. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le tri, effectivement, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais ça n'est pas la solution idéale. Il faut absolument encourager les gens à ne plus acheter de produits sous plastique. Alors, à 100%, ça n'est pas possible, mais il y a des choses maintenant, les shampoings, on les trouve solides, fabriquer sa lessive soi-même avec des paillettes de savon de Marseille, comme ça on arrête d'acheter des bidons en plastique, installer un filtre à la limite si l'eau du robinet n'est pas très bonne, ne plus acheter de bouteilles en plastique.
Tout ça vous l'avez fait chez vous Madeleine, vous avez changé toutes vos habitudes.
Oui, tout à fait, ne pas acheter de plats tout préparés parce que là aussi c'est sous plastique, il y a tellement de choses à faire.
Jean Rollin, on a une proposition là de changement de vie, hein, mais
c'est oui, de réduction. Et la réduction, oui, c'est une bonne chose de réduire et de faire évoluer nos modes de consommation. Il y aura quand même, je veux dire, il faudra quand même emballer des produits et demain on aura encore du plastique et beaucoup de gens ne vont pas faire les courses tous les jours et donc sont obligés de conserver des produits. Et là, en fait, notre boulot, et c'est notre boulot à nous, c'est de trouver des solutions pour que ce plastique se retrouve dans des usines de recyclage et pas dans des poubelles ordinaires. Et alors encore pire, qu'il se retrouve pas dans la nature, parce que en fait, le gros problème du plastique,
c'est de le mettre déjà dans la poubelle.
En fait, le fléau, c'est quoi? C'est la pollution du plastique dès lors qu'il n'est pas traité dans une poubelle ou dans une poubelle de tri. Et cette chose-là, elle est absolument catastrophique. Et on sait aujourd'hui, au XXIe siècle, traiter du plastique. Donc, il faut réduire, bien évidemment, tout ce qu'on peut faire en matière de consommation, faisons-le. Et les entreprises, d'ailleurs, on voit des grands mouvements aujourd'hui dans l'entreprise sur ces sujets-là. Et puis après, on est capable de tout mettre dans une poubelle de tri.
Bon,
faisons-le.
C'est le casse-tête, quand même, le plastique. Hein. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le livre. C'est le plus dur pour l'instant. Parce qu'il y a beaucoup de plastiques différents.
Hein. Alors, sur Facebook, Camille. Maxime, lui, nous parle d'un autre casse-tête. Les emballages qui sont composés de plusieurs matériaux. C'est vrai que ceux-là, ils nous font un peu arracher les cheveux. Il se demande s'il faudrait pas imposer, en fait, aux industriels, à ceux qui fabriquent ces emballages, de ne pas faire plusieurs matériaux, il dit carton plus plastique ou carton plus aluminium, pour faciliter les choses.
Oui, alors il reste une partie des emballages qui s'appellent des complexes. Donc vous prenez un paquet de chips, c'est un mélange d'aluminium et de plastique. Donc ça c'est vrai, cette chose-là. Donc nous on a du travail, le travail d'éco-conception, pour qu'à la fin ce soit un emballage dans un seul matériau. Et donc c'est un vrai sujet.
Mais c'est encore en cours.
C'est encore en cours.
Allez Guillaume, dernier appel au standard de France Inter, bonjour.
Bonjour. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que certaines communes n'ont pas de ramassage à domicile des déchets recyclables, cartons, métaux, plastiques, et uniquement des points de collecte centraux qui, eux, nécessitent un vrai effort citoyen?
Alors Jean Rennin, votre réponse.
Parce que c'est leur choix. Les collectivités sont libres d'organiser la collecte comme elles le veulent. Et c'est un modèle qu'on appelle l'apport volontaire. Donc il faut aller mettre ses emballages dans le point de collecte. Alors il existe dans de très nombreux pays et en général il est très performant.
Et deux questions pour terminer, puisqu'elles sont arrivées sur la page Facebook de l'émission. Alain demande si on peut mettre des cartons souillés dans la poubelle jaune. Ça revient aussi beaucoup, ça, cette question. Sinon...
Des cartons de pizza, par exemple.
Oui, on peut. On n'a pas besoin de faire la vaisselle ou si vous avez une boîte de conserve, pas la peine de la laver. En fait, tout ça passe ensuite dans des usines de recyclage qui nettoient.
Et ça économise de l'eau.
Et ça économise de l'eau, bien évidemment.
Évidemment. Et puis, dernière question. Comment recycler les cassettes vidéo et les cassettes audio? Tiens, les vieux souvenirs.
Les années 80. Ça, c'est quelqu'un
qui a plus de 40 ans. Mais c'est vrai, tout ce qu'on a à la maison dont on veut se séparer,
oui,
on en fait quoi?
Et puis, il y a d'autres choses. Il y a des jouets. Alors moi, c'est vrai que nous, le secteur de l'emballage, vous mettez vos emballages dans la poubelle jaune, mais pas vos cassettes audio, pas vos poupées pour l'instant. Il y aura des
Donc vous les gardez encore à la maison.
On les jette pas, en fait.
Exactement. C'est ça, on les jette pas, on peut pas les jeter.
Gardez-les encore un peu.
Bon. Faites le tri aux éditions du Cavalier Bleu si vous souhaitez avoir d'autres réponses à toutes ces questions. Jean Rennin, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans la Terre au Carré. Juste après les infos, vos solutions pour la planète, nous serons en ligne aujourd'hui avec Primel, une auditrice qui s'est engagée dans la protection des abeilles et de la biodiversité dans les quartiers nord de Marseille. France Inter, 14h.
La Terre au carré.
Dans quelques minutes, Antoine Lee viendra nous proposer le dernier portrait de sa série sur les jeunes qui s'engagent, avec aujourd'hui Martin qui a organisé un blocage devant l'Élysée. Rien que ça. Et puis notre invité découverte nous parlera du lien entre le climat et les sols suite à un rapport du GIEC publié sur la question cet été. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète. Et nous sommes en ligne aujourd'hui avec vous, Primelle, bonjour.
Oui, bonjour Mathieu.
Bienvenue, vous êtes coordinatrice de l'association BZZZ avec 3 Z à
Exactement.
Marseille. C'est comme ça qu'il faut l'écrire sur Internet hein, pour retrouver
oui,
votre site. Et vous vous engagez dans la protection des abeilles et de la biodiversité avec des actions que vous menez en particulier dans les quartiers nord de Marseille. Alors c'était quoi l'idée au départ pour vous? Racontez-nous la genèse de votre aventure.
Alors c'est une association qui a été créée à l'été de 2012 par Sarah Cherel et plusieurs passionnés qui ont eu l'envie de sensibiliser le public à la protection des abeilles, des pollinisateurs et de la biodiversité au sens large. Donc on propose différentes actions, alors ça va de l'animation pédagogique adaptable à tout public, mais également la création d'un oasis ressources et refuge pour les abeilles, où nous accueillons tout au long de l'année, lors de chantiers participatifs, de nombreuses personnes. Et c'est aussi un endroit en fait où on propose un autre mode de vie alternatif, puisque c'est un lieu totalement autonome en électricité, en eau, concernant aussi le traitement des eaux usées. Voilà, et puis on propose aussi des produits artisanaux qui sont fabriqués dans notre BZZZ mobile, qui est un petit camion, en fait un laboratoire mobile, une savonnerie et aussi un lieu où nous faisons l'extraction du miel.
La BZZZ mobile, bon, et vous êtes apicultrice voilà. Ou à l'origine, Primelle ou pas?
Alors pas du tout, moi je viens du social, je suis éducatrice spécialisée depuis une petite dizaine d'années maintenant et j'ai d'abord été bénévole pendant 2 ans dans l'association BZZZ et là je viens juste de rentrer en tant que salariée, en tant que coordinatrice.
Bon, alors concrètement vous allez poser des ruches un peu partout, en tout cas dans les endroits où on vous accueille, c'est ça?
À peu près, oui, tout à fait. Donc on a 2 sites principaux pour le rucher de l'association, donc sur la commune de Tourve, dans le rucher Oasis, et au parc Pastré, qui est un parc des quartiers sud de Marseille. C'est le début du parc national des Calanques, on va dire. Et en dehors de ces 2 endroits, c'est vrai qu'on est régulièrement sollicité par d'autres associations qui souhaitent installer des micro-ruchers pédagogiques et éducatifs. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été sollicité par la MFA pour installer un rucher à la cité Fonds Vert, dans les quartiers nord de Marseille.
Et donc là, elles sont où vos ruches? Elles sont sur le toit des immeubles ou ailleurs?
Alors, à la cité Fonds Vert, en fait, si vous voulez, c'est donc le président de l'association MFA qui, en 2015, a lancé un projet de jardins familiaux. Et donc, progressivement, ils ont mis en place 40 parcelles d'environ 40 mètres carrés chacune pour permettre à 40 familles de devenir autonomes en production de légumes, ce qui permet non seulement d'accéder à des légumes locaux et biologiques, puisque c'est vrai que ce sont des familles qui, financièrement, ne peuvent pas trop s'approvisionner dans des magasins bio. Et donc, afin de permettre la pollinisation de tous ces légumes, de tous ces fruits et tous ces légumes, ils nous ont sollicité pour l'installation de quelques ruches.
Et, pardon de vous interrompre, comment s'est passée l'arrivée justement des abeilles sur les toits avec les habitants, etc. C'est des abeilles noires, je crois, ça peut parfois éventuellement rebuter, sait-on jamais?
Alors là, donc les ruches sont installées au milieu à proximité des jardins. Donc on a évidemment, ça a demandé un certain temps. Il a fallu rencontrer les familles et puis évidemment se faire une place aussi par rapport au réseau de produits illicites qui se vendent dans toutes les cités de France. Et ça s'est fait progressivement et avec une portée très positive au niveau du vivre ensemble, puisque finalement les personnes qui travaillent dans ces réseaux se sont rapidement rendues compte qu'ils avaient rien à craindre de nous. Alors pour la petite anecdote, c'est vrai que on était un peu craintifs vis-à-vis de nos combinaisons, donc là qui s'appelle les vareuses, cette fameuse combinaison de l'apiculteur.
Ah oui, vous êtes en cosmonaute là, oui, quasiment.
Voilà, et c'est vrai que lors d'interventions policières, des fois, les équipes utilisent des uniformes. Donc là, au début, il a bien fallu qu'ils nous distinguent d'éventuelles interventions policières. Et puis, ça se passe très très bien.
Ça a permis de recréer du vivre ensemble aussi pour ces familles qui, au démarrage, étaient un peu victimes de ces réseaux, mais qui finalement se sont rendues compte qu'elles avaient tout à fait la possibilité de créer de réinvestir l'espace naturel et que tout le monde pouvait y trouver sa place.
Et donc l'idée, c'est de développer tout ça, j'imagine, et de pouvoir installer d'autres ruches et aussi développer ces lieux de vie, hein.
Complètement. Alors, au niveau du rucher Oasis, c'est un lieu qui est ouvert chaque premier samedi du mois. Mmh. Donc, n'importe quel citoyen peut venir nous rencontrer, soit pour simplement visiter, soit pour participer au chantier participatif. Et puis, sinon, toutes les associations qui souhaitent nous contacter pour être accompagnées et formées à la création de petits ruchers et devenir autonomes, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. On adore notre mission. Et on vous suivra le temps qu'il faudra pour que vous deveniez autonome.
Eh ben c'est super. Et donc on va sur bzz.fr, b3z.fr. Et puis Primel, venez nous voir parce que nous aussi on a des ruches sur le toit de la maison de la radio.
Ah,
donc si vous venez faire un tour, on pourra vous montrer nos ruches à nous. Voilà.
Oui,
merci beaucoup.
Alors, juste une petite dernière chose,
très très vite,
si c'est possible. Que j'ai oublié, c'est vrai que nous on fonctionne avec un système de parrainage de ruches, ce qui est assez innovant. Allô ?
Oui, on vous entend. Ouais.
Pardon. Donc là, c'est le moment de réadhérer. Et donc, tous les citoyens qui soient proches des Bouches-du-Rhône, du Var ou même plus lointains, n'hésitez pas. À partir du 1er septembre, le parrainage recommence.
Et n'oubliez pas vos adhésions. C'est ça que ça veut dire, surtout.
Comment ?
N'oubliez pas vos adhésions. C'est le message que vous faites passer.
Voilà,
merci beaucoup.
Surtout si vous voulez avoir des filleuls qui butinent.
Ah ouais.
Des petites abeilles.
Absolument. Merci Primel, en tout cas. Si, comme notre auditrice, vous avez-vous aussi des solutions pour la planète, seule ou collectivement, eh bien, vous pouvez bien sûr nous joindre sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé L'Attaque, notre community manager, notre animatrice de communauté en ligne.
C'est comme ça qu'on dit,
oui,
d'accord.
C'est la formule française, Camille. Voilà. Anna vous répondra bien sûr comme tous les jours. Bonjour Antoine Lee.
Bonjour.
Suite et fin déjà de ces portraits de jeunes qui s'engagent et aujourd'hui vous nous proposez de suivre Martin.
Oui, Martin a 16 ans, c'est la première fois que ce jeune Parisien se mobilise pour une cause. Il a participé à toutes les grèves de l'école pour l'environnement et le 28 juin dernier, lui et d'autres adolescents du mouvement La Jeunesse pour le Climat sont passés à la vitesse supérieure. Plus de 150 jeunes ont mené une action contre le président Macron. Ils reprochent au chef de l'État et au gouvernement de ne pas en faire assez pour la planète, contrairement à leurs déclarations. Ce jour-là, en pleine canicule, Martin et les autres activistes convergent par petits groupes vers l'Élysée. Leur but, faire entendre leur colère. Une opération coup de poing, suivie par une dizaine de journalistes et la présence de tous ces médias inquiète Martin.
On marche en plein cagnard en direction de l'Élysée et les gens nous regardent, étonnés de voir autant de caméramans et de journalistes.
S'il vous plaît, vous pouvez ralentir un petit peu ?
Pourquoi il faut ralentir ?
Pour pas arriver avant les camarades qui vont se mettre en place. Ce serait dommage d'arriver avec une dizaine de caméramans sur un lieu sensible, c'est un peu suspect.
Mais vous, moi ce que je voudrais savoir, c'est vous, pourquoi personnellement vous vous engagez aujourd'hui ?
Bah, c'est la rage forcément, c'est la rage, l'envie de combattre cette passivité de l'État, cette passivité des grandes firmes transnationales, des grandes entreprises qui continuent à polluer, de voir tout ça qui se dégrade devant mes yeux. Déjà là, la canicule, on est en 2019, il fait 40 degrés, en 2003 il y a eu 19 000 morts, en 2050 ce sera nous. Sans modification du système actuel, ou on n'aura pas de futur, que ce soit économiquement ou géologiquement, enfin tout s'effondre si on continue dans la voie qu'on mène.
J'espère qu'on va pas se faire violemment rejeter par la police parce que c'est un lieu assez très surveillé.
Vous êtes l'une des militantes qui allait faire l'action aujourd'hui, vous ?
Alors moi je suis en base arrière juridique, s'il y a des jeunes qui partent en garde à vue, c'est moi qui m'occupe de faire le lien avec les avocats.
Il y a un petit caractère illégal dans ce que vous faites là aujourd'hui. Là.
Complètement, oui. Vu l'urgence, c'est même plus une question.
Et ça vous fait peur de faire une action illégale ?
Bien sûr, oui.
Vous avez peur de quoi ?
Beaucoup d'entre nous aussi ont peur de prendre des risques juridiques. C'est aussi leur première fois pour beaucoup.
Vous avez prévenu vos parents ? Ils savent que vous êtes là ?
Moi, oui. Certains ne le savent pas. Ils vont avoir des surprises ce soir.
Quelle surprise ?
D'aller chercher leur enfant au poste de police. En ce moment, on sait ce qu'on observe dans le milieu militant, les gens passent un cap. Toutes les mobilisations jeunes n'ont jamais été liées avec l'écologie, c'est la première fois que ça arrive. On peut dire que c'est historique, en tout cas c'est le début. Je pense que vous pouvez venir, on entend des cris au loin.
Et 1, et 2, et 3, 2,
pourquoi certains d'entre vous ont amené des sacs de couchage?
En fait, on espérait, si l'occupation durait longtemps, de rester plusieurs nuits. On ne sait pas si ça va être possible, mais on a pris nos précautions et on a pris des sacs de couchage de quelques-uns ou des tentes.
Écoute, écoute, écoute la jeunesse et lance, elle lance, elle lance à SOS. Écoute.
Là, la police se déploie, s'approche du groupe de jeunes.
Un policier en civil s'approche des jeunes pour leur parler.
Alors du coup, qui nous recevrait au sein de l'Élysée?
Monsieur le directeur de cabinet.
Monsieur le directeur de cabinet,
du président de la République. Et ce qui peut vous permettre, vous, d'avoir un dialogue constructif avec un représentant de l'État.
Elle est intéressante cette offre que vous fait le policier, au nom de l'Élysée.
Ça peut paraître intéressant, mais je pense que ça va servir surtout à de la communication, à prendre des photos avec nous, et à dire on a reçu les jeunes et ça s'est bien passé et on va... Depuis le début, c'est ça, et le ministère dit on entend les jeunes, on va dans leur sens. Ce n'est pas vrai. Là, la plupart des jeunes, ils lisent les textes de loi, ils sont hyper au courant. On n'a pas envie de servir la communication d'un gouvernement anti-écologique.
Ils sont là pour se donner une bonne image, pour une image verte, dire regardez, je suis le protecteur de la planète, mais après, derrière...
Next the planet, great again, ouais. Après, voilà, après en fait, on vend la biodiversité, on accélère l'artificialisation des terres.
Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement prennent des mesures à la hauteur de ce qu'il faut faire et pas une rencontre de plus parmi tant d'autres, juste pour gagner du temps et juste pour qu'on perde notre mobilisation.
Pour vous, quel est le poids de la jeunesse sur la politique que peut mener le gouvernement en matière d'écologie?
On peut dire que ce sera nous le futur et qu'aujourd'hui les politiques, comme ils ont fait d'ailleurs avant, ont essayé de résoudre les problèmes du passé et les problèmes actuels sans assez anticiper le futur. Mais là, pour le coup, on n'a plus le choix, c'est l'une des priorités. Je pense que si on s'occupe du futur maintenant, on pourra essayer de régler aussi les problèmes d'aujourd'hui, en partie en tout cas.
Alors Antoine, le siège devant l'Elysée donc de Martin et de ses camarades, est-ce qu'il a duré plusieurs jours comme il l'espérait?
Eh bien non, leur occupation a duré 5 heures, ce qui n'est déjà pas si mal. Ouais. Ils ont été évacués par les forces de l'ordre dans le calme et sans violence.
Merci beaucoup Antoine Lee. On peut retrouver l'intégralité de votre série de portraits sur la page de la Tête au Carré, ainsi qu'un diaporama. Vous avez pris des photos
de... Terre au carré, ah ben voilà, Mathieu, c'est normal. Désolée, je vais,
ça sera tous les jours comme ça. Et puis un diaporama avec les visages de ces jeunes que vous avez rencontrés. Merci beaucoup. Vous écoutez la Terre au Carré. Et dans un instant, l'invitée découverte est la chercheuse Claire Chenu qui travaille sur le lien entre le climat et les sols.
Whiskers for her robe.
C'était les Pixies, Catfish Kate à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Claire Chenu.
Bonjour Mathieu Vidard.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à AgroParisTech, spécialiste des sols. Et en 2015, vous avez également été nommée ambassadrice spéciale pour l'année internationale des sols.
Tout à fait.
Et début août, le GIEC a publié un volumineux rapport sur la relation entre le climat et les terres émergées de notre planète, histoire de pouvoir le lire sur la plage pour ceux qui avaient le courage. C'était votre cas? Vous l'avez lu de la première à la dernière page? C'est
non.
1500 pages de rapport?
Non, j'ai lu le résumé exécutif de 40 pages. Et j'ai lu une partie d'un rapport qui m'intéressait, d'un des chapitres qui m'intéressait particulièrement.
C'était quoi, vous, votre chapitre?
C'était le chapitre sur l'évaluation des effets intégrés vis-à-vis des 5 défis. Alors, c'est un rapport, ce qui est très intéressant, c'est qu'il embrasse 5 défis. Atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, lutte contre la désertification, lutte contre la dégradation des sols, sécurité alimentaire. Et il y a un chapitre qui essaie de croiser, justement, ces différents enjeux.
Ouais. Alors, c'est une sorte de compilation aussi des connaissances aujourd'hui de la recherche scientifique, hein. C'est ça, ce travail.
Comme tous les rapports du GIEC, tous les rapports de l'IPBES sont pendants sur la biodiversité.
C'est une synthèse sur les connaissances. Mais alors, comment on fait, justement? C'est juste, en fait, des recherches qu'on met en avant, ou il y a un consensus qu'on essaye d'avoir pour donner une conclusion à ce rapport? Parce que tous les chercheurs entre eux ne sont pas d'accord, hein.
Tous les chercheurs entre eux peuvent ne pas être d'accord, mais quand même, il y a un consensus. On essaie d'identifier des publications, on se donne des critères de sérieux, de fiabilité des publications pour faire un tri. Et ensuite, ce qui est très difficile et très excitant, je l'ai fait pour l'IPBES, c'est à partir d'un ensemble d'articles d'essayer de dégager une conclusion. Mmh. Voilà, par exemple, une valeur qu'on va sortir d'une incertitude. Et on va dire, ben, on a confiance dans notre résultat, on a moyennement confiance, on a très peu confiance.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, en résumé, justement, ce rapport rédigé par 107 chercheurs de 52 pays sur, finalement, l'impact climatique et l'état de nos sols, les terres émergées, hein. On peut préciser ce terme-là?
C'est les terres émergées, c'est-à-dire ça comprend tous les écosystèmes terrestres, les sols, la végétation qu'il y a dessus, et tous les habitants, tous les êtres vivants de ces écosystèmes. Alors, ce que dit ce rapport en substance, c'est que les terres émergées sont sous pression du fait des activités anthropiques, qu'elles contribuent elles-mêmes au changement climatique, c'est-à-dire qu'elles émettent des gaz à effet de serre anthropiques,
liés
aux activités humaines. C'est dans les deux sens.
C'est les effets du réchauffement sur les sols et le contraire aussi.
Et donc, il y a des interactions très complexes, hein, c'est-à-dire que la dégradation des terres va renforcer les émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et puis, ce que dit aussi ce rapport, c'est qu'il y a des solutions, et donc il essaie d'identifier ces solutions, de les analyser par rapport aux 5 enjeux que je vous ai présentés.
Ah, donc, c'est pas complètement négatif, parce qu'on a l'impression que le GIEC ne fait que des rapports négatifs. Est-ce que ça vous arrive de donner des bonnes nouvelles?
Alors, des bonnes nouvelles dans la mesure
où il y a un petit silence.
On vous a vu lever la tête.
Non, parce qu'alerter, c'est bien, mais il y a beaucoup de gens qui disent il y en a marre, c'est déprimant, l'écologie, en fait, c'est la fin du monde. Enfin, vous voyez,
une bonne partie du rapport est sur les solutions.
Ah, alors.
Et sur l'analyse des solutions. Et moi, ce que je trouve vraiment très, très intéressant dans ce rapport, c'est de ne pas se focaliser sur le changement climatique seulement. C'est-à-dire que chaque solution, par exemple agroforesterie, est analysée du point de vue de sa capacité à atténuer le changement climatique, à s'adapter au changement climatique, à lutter, à améliorer la sécurité alimentaire, lutter contre la désertification, lutter contre la dégradation des sols.
C'est quoi l'agroforesterie?
Alors, l'agroforesterie, c'est faire à la fois de l'agriculture et cultiver des arbres. Alors, ça va depuis les jardins étagés tropicaux, aux pré-vergers de Pays d'Auge, par exemple, hein, qu'on connaît bien dans notre pays, et puis à des formes modernes d'agriculture, d'agroforesterie, où on a des champs de céréales, par exemple, et puis des rangées d'arbres qui sont cultivés pour le bois d'œuvre.
Donc ça, c'est des solutions dont vous parlez,
par exemple. Ça fait partie des solutions.
Ouais, et pourquoi c'est bien, alors, exactement?
Alors, pourquoi c'est bien l'agroforesterie
entre l'agriculture et la forêt?
Alors, ça a plein de vertus. Ça en a une, c'est que ça fait plus de photosynthèse, parce qu'il y a des arbres, en plus. Et donc, ça va injecter plus de carbone dans le sol, puis ça va fixer même du carbone dans le bois pendant quelques dizaines d'années. Ça fixe le sol, et donc ça permet de lutter contre l'érosion. Le fait qu'il y ait ce couvert arboré va aussi tempérer le climat. En climat méditerranéen, ça permet d'éviter de limiter les chaudages des cultures, enfin que les cultures aient trop chaud en été. Ça fait un refuge supplémentaire pour la biodiversité. Voilà, typiquement,
C'est une solution, enfin c'est multi-bénéfice.
Claire Chenu, la façon dont l'homme traite aujourd'hui les sols, c'est quand même l'une des choses les plus incompréhensibles dans notre rapport à la nature, moi je trouve, parce que la Terre nous nourrit et finalement on passe notre temps aujourd'hui à l'appauvrir à grande échelle, c'est-à-dire qu'on menace notre propre vie à nous. Il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond là, non ?
Je suis bien d'accord avec vous, il y a quelque chose qui tourne pas rond. On n'a pas du tout conscience, de manière générale, de ce que sont les sols et de à quoi ils servent. On marche dessus.
C'est
comme,
ça.
Si, comme si c'était un plancher.
On oublie que ça nous nourrit finalement, non ?
On oublie que ça nous nourrit absolument. Plus de 90% de notre alimentation vient des sols.
Et donc on goudronne, on bétonne, on déforeste. Un appauvrissement général, parce que c'est ce qui ressort aussi de ce rapport. Appauvrissement en matière organique, donc la qualité même de la terre. Et ça, c'est quand même très préoccupant, non ?
Ça, c'est très préoccupant et c'est très important. La matière organique, c'est donc un constituant des sols qui est, qui est responsable d'une bonne partie de sa fertilité, qui est aussi important pour la biodiversité, puisque les organismes vivants, ils se nourrissent de quoi ? De matière organique.
Comme les vers de terre, par exemple.
Les vers de terre, par exemple, les laboureurs du sol. Et donc, et puis la matière organique, c'est du carbone. Et tout le carbone qui est dans les sols, il n'est pas dans l'atmosphère.
Et la France, dans le monde, elle se situe comment en matière de pression, comme vous dites ?
Alors, par exemple, en matière de pression, la menace principale sur les sols à l'échelle de la planète, c'est l'érosion. La France n'est pas un des pays les plus atteints par l'érosion, même si l'érosion est importante en sols cultivés, dans certaines régions, en Normandie, dans le nord de la France, dans le Piémont pyrénéen. Par contre, pour ce qui est de l'artificialisation, alors c'est la menace la plus importante aujourd'hui en France.
Et vous entendiez tout à l'heure dans le reportage, le jeune qu'on entendait devant l'Élysée, Martin en parlait.
Donc on commence à en parler dans la presse. Moi, je me rends compte, c'est quand même les idées commencent. On commence un tout petit peu à entendre parler des sols.
Mais alors, en France, il y a des cas quand même qui sont hallucinants. C'est-à-dire qu'on utilise par exemple des terres d'extrêmement bonne qualité comme en Île-de-France pour y construire des aéroports ou pour des projets comme Europa City. C'est-à-dire qu'on a des terres formidables là, à ces endroits-là.
On a les meilleures terres à céréales de France.
Qu'est-ce qu'on veut y faire ?
On veut les bétonner et on veut y construire des centres commerciaux dont on se demande vraiment quelle est l'utilité sociale et même économique et puis quel est l'impact écologique.
Mais comment on peut agir là-dessus ? Parce qu'évidemment, les gens se mobilisent déjà autour d'Europa City, il y a déjà beaucoup de mobilisation. Vous, en tant que scientifique Claire Chenu, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à ce sujet et sur ce cas précis ?
Moi, je trouve qu'il y a à réfléchir sur ce modèle de consommation que proposent ces centres commerciaux géants, complètement artificiels, complètement coupés de l'environnement, qui se traduisent par la fermeture des commerces par ailleurs, en centre-ville, donc avec des impacts socio-économiques vraiment pas négligeables. Et puis, je pense que j'ai envie de dire que oui, que ça va se développer en détruisant un sol qui est un sol extrêmement fertile et extrêmement important en termes de sécurité alimentaire.
Mais il faut le dire, ça. Il faut le dire encore plus fort.
On essaie de le dire. J'ai accepté votre invitation, entre autres pour ça. Je suis très contente qu'on parle des sols.
Alors, en dehors des sols, évidemment, qui, eux, vont subir le goudronnage ou le bétonnage, est-ce qu'il y a ensuite une résilience possible sur des sols qui, eux, ont été maltraités, mais qui restent quand même des sols ? Est-ce qu'il y a moyen quand même de faire revivre un sol assez facilement ?
Oui, quand un sol n'a pas été bétonné, on peut le restaurer. Et globalement, il faut arriver à l'enrichir de nouveau en matière organique, ce qui va restaurer sa biodiversité. Et ça, on peut le faire, il faut faire pousser des plantes dessus. Parce que faire de la photosynthèse et donc incorporer de la matière organique, ça peut aussi recycler nos déchets sur les sols. Alors bien sûr, les effluents d'élevage, le fumier, mais aussi les composts des villes, les composts de biodéchets, donc nos poubelles triées, nos déchets alimentaires. Ça peut contribuer à reconstituer la fertilité des sols.
Un sol, ça peut mourir complètement ?
Non, ça c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Moi je pense qu'on peut dire qu'un sol est mort quand il est bétonné. Et puis dans des sols, sur des sites contaminés extrêmement pollués. Mais sinon les sols agricoles ne sont pas morts, mais ils pourraient être en bien meilleur état qu'ils ne sont. Plan biologique, bien meilleur état.
Mais il y a une prise de conscience quand même, on sent que ça change. On parlait des arbres aussi cette semaine. Voilà, tout ça c'est quand même aussi très très nouveau. Parce que même quand on est en ville, évidemment les gens qui habitent à la campagne ils sont peut-être plus sensibles. Mais même en ville on est conscient de ce qui se passe.
On est conscient et j'ai entendu tout à l'heure... une partie de votre émission portée sur des jardins partagés. Moi, je trouve qu'une des vertus de ces jardins, c'est de faire prendre conscience de la nature aux citoyens, de restaurer un contact avec la nature et donc de faire prendre conscience de l'importance des sols, des végétaux, des abeilles, des animaux.
Voilà, rapport du GIEC donc, qui est sorti en août. On a mis le résumé, pour ceux qui aiment lire les résumés de 40 pages en anglais sur le site de La Terre au Carré.
Pages. Oui. J'ai une question pour vous. Quel est votre geste pas écolo des dernières 24 heures, Claire Chenu ?
Confiez-vous, Claire Chenu.
Oh là là.
Personne n'est parfait.
Il y en a un auquel je pense tout de suite. C'était hier et malheureusement avant-hier aussi. C'est que je travaille à 20 km de chez moi, à Grignon, dans l'ouest de la région parisienne, et j'y vais en voiture. Ça prend 30 minutes. Je pourrais y aller en transport en commun. Ça prend une heure. J'ai la flemme, je l'avoue.
Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Dans un instant, la marche de l'histoire.